Merci d'écouter le studio Kalangou. Il vient d'être à 18h. Le journal, c'est dans une présentation de Nefis Adam Sirfou. Les titres. Le rapport d'enquête parlementaire sur la crise à l'université de Niamey a été remis hier au président de l'Assemblée nationale du Niger. Les explications avec le président de la commission d'enquête parlementaire. Une conférence débat a eu lieu ce matin à Niamey sur la question de l'étiage du fleuve Niger, une initiative de l'association Jeunesse Initiative Fleuve Niger. L'importance du déstockage stratégique des animaux en période de soudure, c'est de cela qu'on parlera en partie magazine. Bonsoir à tous. Nous débutons ce journal par cette brève. Nous venons d'apprendre l'attaque aujourd'hui même contre le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré, dans le centre du Mali. Selon l'agence France-Presse qui cite une source militaire, le bilan provisoire est de 6 morts, évoquant la possibilité que des blessés aient pu succomber par la suite. Remise hier au président de l'Assemblée nationale du rapport de la commission d'enquête parlementaire, installé à main pour analyser les crises à répétition de l'université Abdou Moumouni de Niamey, un travail effectué en 40 jours par un groupe de 10 personnalités désignées par le Parlement nigérien. Le président de la commission, Lawali Mal Moussa, explique le déroulé des travaux au micro de Habibou Garba.
Nous avons dès le départ réalisé qu'on ne peut pas parler de la crise à l'université sans vraiment regarder ce qui se passe dans l'ensemble du système éducatif nigérien. Et c'est ça qui nous a amené à organiser 34 auditions. Le milieu universitaire, les membres du gouvernement en charge du secteur de l'éducation, les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, bien entendu, les étudiants, les enseignants, chercheurs. Donc là, c'est toute cette frange, je dirais, concernée que nous avons rencontrée. Et vraiment, on a été agréablement surpris de constater que la population nigérienne, je dirais, dans son ensemble, est d'accord qu'il est grand temps qu'on mette fin à ces crises qui ne finissent pas pour que notre système éducatif reprenne le chemin de l'excellence.
Informer la communauté nationale et internationale sur le besoin humanitaire du fleuve Niger, c'est l'objectif visé à travers le thème « La préservation du fleuve Niger, les causes et conséquences de son état actuel et les solutions à envisager pour sa préservation de son ensablement », une préoccupation partagée ce matin à Niamey à l'initiative de Jeunesse Initiative Fleuve Niger. Les explications de Salisu Haruna du ministère nigérien de l'hydraulique.
On remarque à partir du point même des formations des plages du moins de sable, et ces formations des plages du sable réduisent drastiquement les débits d'écoulement des eaux. Par exemple, nous avons eu à effectuer des jaugeages et je vais vous donner un petit exemple de la situation des jaugeages au cours de l'année 2017-2018 où en septembre nous avons eu à faire des jaugeages qui nous ont donné un débit à une côte de 596 cm, là on parle de hauteur, qui nous a donné un débit de 1650,08 m³/s. Comparativement au barème, nous devrons avoir 2216 m³/s, soit une différence d'environ 626 m³/s. Ça prouve rien qu'à travers ça qu'il y a eu une formation de sable. Et cette formation de sable continue drastiquement.
Propos recueillis par Mariama Diallo. Proposition d'extension du parc W du Niger en bien transfrontalier par son inscription au complexe WAP qui désigne les parcs du W, celui d'Arli et l'autre de la Pendjari. Comment le Niger porte son adhésion à cette proposition aux côtés du Bénin et du Burkina Faso dans le cadre du programme de gestion du complexe des parcs W? Réponse avec Samaylou Sahelou, directeur de la FON, de la chasse des parcs et réserves du Niger au micro de Gungu Mahamad Dantani.
Avec les États du Bénin, du Burkina et du Niger, nous avons organisé une rencontre sur la validation d'un document pour la création d'une structure autonome de gestion des parcs et réserves. En juin 2017, il y a eu une rencontre régionale sur le mécanisme de financement durable qui a invité l'État du Burkina Faso et du Niger à engager la dynamique pour aller dans le sens de la régionalisation du financement durable. Pour le Niger, il s'agit d'engager le processus de la création de la structure et puis présenter le document. Le document a été présenté, validé sur trois éléments essentiels. Le premier élément, il faut informer les autres ministères qui sont concernés par la mise en œuvre de cette structure autonome, organiser un atelier pour l'internationalisation du dossier et engager une dynamique dans le sens de lobbying envers les partenaires techniques et financiers et aussi en faveur des parlementaires qui vont engager l'État du Niger dans un système d'ensemble. Les prochaines étapes, nous allons nous atteler sur le processus pour l'élaboration des textes.
En bref, l'élection d'un nouveau chef de canton de Dogondouchi est fixée au 28 juillet prochain, une date arrêtée jeudi d'un commun accord entre le gouverneur de la région de Dosso et les candidats au trône vacant depuis le décès le 31 octobre 2015 du chef de l'Arewa, El Hadji Amadou Gao. A noter qu'un arrêté du ministre de l'Intérieur fixe à 42 le nombre limite des prétendants au trône de la chefferie traditionnelle. Dans son rapport du 20 juin dernier sur l'économie intitulé « Les défis de l'urbanisation en Afrique de l'Ouest », la Banque mondiale relève que le Sahel connaît actuellement une urbanisation rapide et désordonnée. Selon ce rapport, la population des villes de Bamako, Niamey et Conakry augmente plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. On estime que jusqu'en 2030, les zones urbaines au Mali, au Niger et en Guinée accueilleront respectivement au moins 400 000, 190 000 et 150 000 résidents chaque année. N'est-ce pas Moussa Hassan ?
L'explosion démographique des jeunes pourrait de ce fait se transformer en dividende démographique. Les villes profitant d'une croissance temporaire de la population en âge de travailler pour employer les jeunes de manière productive ou en catastrophe démographique accompagnée d'instabilité urbaine si les villes ne répondent pas à ces aspirations. Les trois villes souffrent de marchés fonciers inefficaces qui ont entraîné un développement humain anarchique conduisant à des investissements dans des bâtiments et infrastructures éloignés des zones centrales. La situation est d'autant plus préoccupante que la prestation de services urbains au Mali, en Guinée et au Niger, comme l'indique un indice combinant la qualité de l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement, accuse également un retard par rapport à la moyenne subsaharienne et ne montre aucun signe de redressement.
Hajj 2018, les inscriptions se poursuivent malgré le dépassement de la date limite pourtant fixée au 20 juin. Le chef du service à communication du commissariat à l'organisation du Hajj de la Omra rassure que toutes les dispositions sont prises pour un bon Hajj 2018. Hafizou Mahamadou, que je vous propose d'écouter.
Pour vous donner le bilan des inscriptions, on a 12 240 pèlerins inscrits qui ont payé les prestations saoudiennes sur un quota de 15 891. Nous avons 1672 pèlerins qui ont été inscrits mais qui n'ont pas fini de payer leurs prestations. Ce qui fait dans les 13 000 et quelques de quotas qui a été inscrit jusqu'ici. Donc, le nombre de places restantes qui n'a pas été inscrit est de 1979 à la date d'aujourd'hui.
À quand la fin définitive des inscriptions ?
Les inscriptions sont en principe arrêtées, sauf les places-là des pèlerins qui ont désisté et qui n'ont pas voulu payer. Donc, on peut les remplacer, eux, par d'autres pèlerins qui disposent de leurs frais de pèlerinage.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Les 28 dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet hier à Bruxelles ont finalement trouvé un accord sur le dossier de la migration ce vendredi 29 juin au petit matin, rapporte la télévision France 24. L'accord annonce la création des centres dits contrôlés en Europe, détail avec Adam Dawaki.
Le ressort des discussions, la création des centres d'accueil sur la base du volontariat sur le sol européen. L'objectif affiché est de mieux protéger les frontières du bloc et de renforcer les règles d'accueil, a rapporté la télévision France 24. La même source indique que les Européens ont décidé de renforcer leurs frontières extérieures, notamment en augmentant les aides à destination de la Turquie et de l'Afrique du Nord, afin d'éviter de renouer avec des flux comparables à ceux que l'Europe avait enregistrés en 2015. L'accord appelle aussi les États membres à prendre toutes les mesures internes nécessaires pour éviter les déplacements des migrants entre pays de l'Union européenne. Ces mouvements secondaires convergent souvent vers l'Allemagne où ils sont au cœur du débat politique qui fragilise Angela Merkel.
L'ONG Aladun Gargaja organise depuis hier à l'Académie des arts martiaux à Niamey une exposition de 48 heures sur les richesses culturelles de la région de Tillabéri. Aussi à l'occasion, une conférence animée par des enseignants-chercheurs de l'Université de Tillabéri. Des précisions avec Aminata Salifou Modi, présidente de l'ONG Aladou, au micro de Gungu Mahaman Dantani.
J'ai toujours été attirée par la culture nigérienne. Je fais déjà assez la promotion sur les réseaux sociaux, d'où mon surnom Haja Culture. Pour moi, le plus important est de commencer à faire la promotion de ma culture et de faire connaître ma culture à travers mon habillement, des expositions et tout ça.
Après la région de Tillabéri, est-ce que cette initiative va continuer sur toutes les autres régions du pays?
Oui, notre objectif est de faire découvrir toutes les régions du Niger et ça sera chaque année. Malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire quelle région nous allons choisir l'année prochaine.
Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez regrouper l'ensemble des cultures nigériennes pour faire une exposition générale?
Je me dis que déjà avoir certaines personnes ici, c'est déjà le début et c'est le début qui compte. Je pense que oui, un jour j'arriverai à réunir tout le monde.
Du sport à présent, la Coupe du monde de football 2018 se poursuit en Russie sans les Africains. Toutes les 5 équipes africaines ont été éliminées dès la phase de poule. Plusieurs facteurs expliquent cette fin de course prématurée. Écoutons l'analyse de Lawali Garba, vice-président du comité des compétitions à la Fédération nigérienne de football. Il est au micro de Soumana Amadou.
C'est surtout cette mauvaise gestion du temps pour le match. Donc c'est vraiment le manque de concentration qui est dû à une mauvaise préparation mentale. Et aussi les entraîneurs de ces clubs-là, ils doivent choisir les moments pour remplacer des joueurs ou pour leur parler même, pour ne pas les déconcentrer. Quant aux Nigériens et les Sénégalais, les deux ont prouvé en Afrique que vraiment le football a un niveau top comme on le dit. Le Maroc, on a vu, est victime de l'assistance vidéo à plusieurs reprises, n'est-ce pas, a montré une belle face aussi. Rien n'est perdu et il faut se mettre au travail pour pouvoir vraiment rivaliser avec ces équipes. Elles n'ont rien de spécial, c'est le professionnalisme qu'ils mettent, n'est-ce pas, pour pouvoir aller vers la réalisation de la performance.
La partie magazine de cette édition, la campagne agricole de l'année dernière a connu un déficit fourrager qui ne permet pas de maintenir le cheptel en bon état jusqu'à la fin de cet hivernage. En pareille circonstance, selon le secrétaire exécutif de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, le déstockage réduit les pertes d'animaux. Bourem Dodo précise que ce déstockage stratégique est meilleur aux autres procédés. Il est au micro de Diallo Maria Makenda.
Il y a le stockage stratégique, c'est-à-dire on peut anticiper sur une crise qui peut venir dans 4-5 mois. Tandis que l'autre déstockage, c'est quand la crise est là, il n'y a pas de pâturage, on essaie de vendre, de décapitaliser, vendre les animaux à vil prix. La période de soudure pastorale est souvent confondue avec la période de soudure agricole. La période de soudure au niveau des éleveurs, c'est dès le mois de mars-avril. Donc la période de soudure pastorale au Niger a commencé depuis avril, avant même avril. Aujourd'hui, ils sont en crise et ils sont en train de mourir.
Ça veut dire que le déstockage est difficile à faire là-bas?
Maintenant, en tout cas, ce n'est plus un déstockage stratégique. C'est une décapitalisation. Un animal qui à un moment peut coûter 200 000 est vendu à moins de 50 000. Et on ne choisit plus les animaux à vendre, mais on vend n'importe quel animal qui tient. Alors que dans le déstockage stratégique, on essaie de sauvegarder le capital reproductif comme les laitières, comme les géniteurs. Donc aujourd'hui, il faut dire que dans la plupart des zones du nord du Niger et de l'est, il y a eu effectivement des pertes de bétail.
Alors pourquoi à ce moment-là, cette question de déstockage n'avait pas été évoquée?
Bon, il faut dire que le stockage stratégique nécessite un niveau d'organisation qui va depuis le niveau régional, national, jusqu'au niveau de l'éleveur. Cette organisation n'est pas encore huilée. Les éleveurs n'ont pas les mêmes informations que les niveaux administratifs ou techniques qui suivent l'évolution pluviométrique ou saisonnier. Donc les éleveurs, souvent, ils ne vendent pas au moment où ils devraient vendre parce qu'ils n'ont pas eu l'information, parce que l'État n'a rien mis en œuvre pour que le déstockage ne devienne pas aussi une décapitalisation. Donc, il faut une préparation pour que le déstockage soit mené à bien. Pour vous dire vrai, ce que le Niger, comme d'ailleurs la plupart de nos États, n'ont jamais connu une véritable déstockage stratégique.
Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.